Le changement climatique et les questions environnementales ont beau être présents chaque jour dans les médias, notre attention sur le sujet et notre capacité à agir vraiment semblent toujours au point mort. On entend les messages, on déplore la situation, mais rapidement, on préfère passer à autre chose. D'où viennent ces freins qui nous empêchent de changer nos comportements et de passer à l'action? Coralie Chevalier est chercheuse en sciences cognitives. Elle va nous expliquer les mécanismes qui expliquent pourquoi ça bloque et si vous, vous trouvez justement difficile de changer vos comportements et votre mode de vie pour être plus en accord avec l'environnement, venez nous en parler. J'attends vos témoignages, vos questions à notre invité au standard de France Inter 01 45 24 7000 sur la page de la Terre au Carré et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Dans quelques minutes, Camille Cronier, vous passerez au vert comme tous les jours.
Avec nos dirigeants et leurs paroles sur l'environnement aujourd'hui.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète. Sébastien, un auditeur de Montpellier, nous présentera son projet de ferme urbaine collective. Le portrait d'Adèle, 18 ans, qui organise des light off avec ses copains pour éteindre les enseignes des magasins la nuit, avec Antoine Lee. Et puis l'invité découverte, Victorien Eurussard, nous parlera d'Energy Observer, un navire autonome en énergie. Voilà le menu complet de cette Terre au Carré, réalisé par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Bonjour Coralie Chevalier.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes donc chercheuse en sciences cognitives à l'INSERM et à l'École Normale Supérieure. Et donc avec vous aujourd'hui, on s'intéresse aux freins cognitifs et comportementaux qui nous empêchent d'agir vraiment pour changer nos comportements. Et le hasard fait qu'il y a un an, à ce micro, Nicolas Hulot démissionnait du gouvernement en raison justement de l'inertie généralisée.
Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncé, dans une forme d'indifférence.
C'est ça dont il s'agit, hein, Coralie Chevalier, finalement, non ? L'inertie, oui. L'indifférence
L'indifférence, je ne sais pas. Il y a quand même 85% des Français qui déclarent être inquiets à propos du réchauffement climatique. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Les gens ne sont pas indifférents. Mais en effet, les actions ne sont pas à la hauteur des inquiétudes.
Ouais. Vous, en tant que scientifique, vous essayez de décortiquer tous ces mécanismes. Justement, expliquez-nous ce que vous faites dans votre laboratoire pour savoir ce qui se passe dans nos têtes.
Alors nous, on travaille à plusieurs niveaux. On s'appuie sur, effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a des biais qui empêchent le changement. Et ils sont de plusieurs natures. Il y a des biais qui sont liés au fait qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas. Par exemple, on a des difficultés en tant qu'humain à manipuler des statistiques complexes.
Oui.
Donc une des choses qu'on essaie de faire, c'est de traduire des messages qui sont compliqués mathématiquement en des statistiques plus intuitives. Par exemple, si vous mangez une entrecôte par semaine ou deux entrecôtes par semaine, c'est l'équivalent sur l'année de faire trois vols Londres-New York. Donc quand on le dit comme ça, c'est plus facile à comprendre. Et on essaie de voir comment, en fournissant ce type de message, on arrive à mieux faire changer les comportements.
Ouais.
Donc ça, c'est une manière de faire.
Donc il y a un problème de lisibilité, tout simplement, des messages qu'on nous envoie ?
Ça, c'est une des raisons.
Ouais.
L'autre raison, ça peut être qu'on ne croit pas. Il y a beaucoup de défiance, en particulier en France. Donc une défiance qui s'exprime à l'encontre des élites, des médias, des scientifiques, des médecins, etc. Donc ça, c'est une autre thématique de recherche qui nous intéresse dans le laboratoire. Quels sont les déterminants du manque de confiance et comment on peut y remédier ?
En quoi on ne croit pas finalement à toutes ces nouvelles catastrophiques qu'on nous annonce à longueur de journée ?
Oui, c'est-à-dire qu'on doute. On doute du messager. On se demande pourquoi on nous informe de ça et pas d'autre chose. Est-ce que réellement, quand on dit aux citoyens qu'ils ont le devoir de changer, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas à d'autres de changer ? Est-ce que c'est utile pour un citoyen individuellement de changer ou est-ce qu'au contraire, il faut que ce soit les dirigeants qui changent et pas nous ? Est-ce qu'il faut que ce soit les industries plutôt que les particuliers qui changent ? Et donc, il y a plein de défiances qui s'expriment, en particulier en France. Et il faut construire la confiance, ça permet de faire de meilleures réformes et de les faire accepter. La taxe carbone, c'était un très bon exemple.
Ouais, alors, donc, on se renvoie la patate chaude, finalement.
On se renvoie la patate chaude, exactement.
Ouais. Pourquoi il y aurait une spécificité française là-dessus ?
Bah, la France est caractérisée par un fort niveau de défiance.
Ah oui.
On a peu confiance dans les institutions, peu confiance dans les gouvernements, peu confiance dans les médecins.
Mmh.
Et un peu moins confiance qu'avant dans les scientifiques.
Ouais.
Et c'est problématique parce que pour faire accepter une réforme publique, une politique publique, on a besoin avant tout de l'adhésion des citoyens. C'est-à-dire qu'avoir identifié la bonne solution, ça ne suffit pas. Et en France, par exemple, la baisse du taux de vaccination illustre très bien ce problème. On connaît les façons scientifiques d'éviter certaines maladies de se propager, mais ça ne suffit pas si on n'a pas l'adhésion de la population. Et dans le cas de la taxe carbone, c'est la même chose. On a compris qu'il fallait un signal prix pour que le public se rende compte du prix, du coût du carbone, mais il faut que ce signal prix soit implémentable et accepté par la population.
Ouais, c'est un très bon exemple, hein, parce qu'on voit évidemment les effets d'un projet comme la taxe carbone et ensuite la façon dont la société réagit très
Exactement.
Violemment sur ce type de proposition. Hein.
Et c'est pour ça que les approches comportementales et ce qu'on fait en sciences cognitives sont très importantes, parce que finalement, il suffit pas d'avoir identifié les solutions techniques. Donc tous les modèles qui tentent de réfléchir à la manière dont on peut suivre l'accord de Paris, donc 2 degrés, 1,5 si possible,
oui.
s'accordent pour dire qu'il faut combiner des solutions technologiques qui vont permettre de diminuer la production de carbone et de capturer le carbone éventuellement, et réduire la production de carbone. Et ça passe par des avancées technologiques, mais aussi par un changement de vie
Ça, c'est du concret, hein. C'est dans nos vies de tous les jours.
Et ça, c'est du concret, et ça, finalement, c'est pas si simple.
Oui.
C'est pas si simple de faire changer le comportement de millions de gens.
Et quand on lit les travaux sur la psychologie sociale, on se rend compte finalement que l'être humain, c'est presque par nature qu'il n'aime pas le changement. C'est-à-dire le cerveau aime l'habitude, on pourrait quasiment résumer les choses grossièrement comme ça.
Oui, alors ça c'est un frein, on aime l'habitude. On peut parler de biais, mais en même temps, aimer l'habitude, c'est très fonctionnel la plupart du temps. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié le meilleur chemin pour aller de votre travail à votre domicile, ça sert à rien d'essayer d'explorer tous les jours un nouveau chemin. Donc c'est très rationnel de s'appuyer sur les habitudes, ça fait gagner du temps. Mais quand ces habitudes sont des habitudes qui sont néfastes, par exemple pour le climat, c'est problématique. Mais c'est pas le seul obstacle. Un des obstacles principaux, c'est un obstacle qui est de nature sociale. C'est-à-dire qu'on a envie de bouger, mais si on a vraiment, si on est rassuré sur le fait que tout le monde va bouger.
Oui. C'est-à-dire que si son voisin, par exemple, ou sa communauté, a des actes en faveur de l'environnement, on va y adhérer beaucoup plus facilement. C'est plus simple de le faire en groupe ensemble?
C'est plus simple de le faire en groupe. On sait, par exemple, que si on demande aux gens de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire collectivement, ils vont, prendre des décisions qui sont plus favorables à l'environnement que si on leur demande de prendre une décision individuelle.
Mmh.
Et si on les informe du fait que le niveau d'investissement, d'altruisme dans leur communauté est plus élevé que ce qu'ils pensaient, ça fait bouger leur comportement. Donc là aussi, c'est un cas où on combine un biais qui est un biais social d'attente de réciprocité. On n'a pas envie, en gros, d'être le seul pigeon qui fait quelque chose si
ouais.
tout le monde triche.
C'est vrai.
L'ignorance, c'est-à-dire on peut se tromper sur le niveau d'investissement des autres.
Alors Coralie Chevalier, quand on lit les travaux, parce que c'est vraiment très étayé hein, aujourd'hui, ces recherches sur la psychologie sociale, on s'aperçoit que dans les autres biais, il y a des effets qu'on appelle de distance ou de temporalité en tout cas. Hein. C'est-à-dire que ces événements, on les imagine toujours plus loin, à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps.
Oui, ça c'est...
Alors même que les forêts brûlent... sur notre planète en ce moment. Hein.
Oui, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, c'est qu'on essaie de comprendre comment on peut faire changer le fait qu'on valorise les récompenses immédiates. Donc là, ce dont vous parlez, c'est un petit peu différent, parce que c'est le fait qu'on imagine les risques comme étant plus loin que ce qu'ils ne sont.
Oui.
Mais le corollaire de ça, c'est aussi de survaloriser les récompenses immédiates et de dévaloriser les récompenses à long terme. Et le climat, c'est un vrai exemple de ça, parce qu'il faut vraiment être en mesure de ne pas prendre en compte les récompenses immédiates pour un bénéfice à très long terme,
oui.
potentiellement pour nos enfants et même pas pour nous-mêmes.
Oui. Donc nos circuits de la récompense, ils doivent être un peu frustrés et c'est compliqué à accepter finalement.
Exactement, hein. Et il y a des différences entre les individus, tout le monde n'a pas la ouais. même capacité à faire ça. Il y a des gens qui sont plus accros aux récompenses immédiates que d'autres. Et on essaie de comprendre comment on peut essayer de faire bouger ça. Voilà.
Alors Coralie Chevalier, on va dialoguer avec les auditeurs dans un instant, ils sont là au standard, il y a déjà des messages sur franceinter.fr sur les réseaux sociaux, il y a un premier message de Jean qui demande si le fait de culpabiliser c'est un ressort qui peut fonctionner efficacement ou si au contraire c'est totalement contre-productif.
Mais c'est une très bonne question.
La méthode Greta Thunberg par exemple.
Alors il y a des chercheurs qui ont comparé le sentiment de fierté, donc demander aux gens de s'imaginer à quel point ils seraient fiers s'ils entreprenaient telle ou telle action pro-environnementale.
Oui.
Et à d'autres gens, à quel point ils se sentiraient coupables s'ils n'entreprenaient pas
ouais.
cette action.
Alors...
Il se trouve que la fierté est un meilleur moteur de changement. Mais évidemment, si on ne fait pas quelque chose qu'on serait fier d'avoir fait, on se sent probablement un peu coupable. On peut se sentir coupable, c'est un levier pour soi-même, mais ça ne signifie pas qu'il faut culpabiliser les autres. La fierté expliquer aux gens à quel point ils vont se sentir fiers s'ils font telle ou telle action.
Donc ça,
c'est un meilleur moteur.
C'est à valoriser, hein, plutôt.
C'est à valoriser.
Puisqu'on parle de Greta, Camille, vous avez des nouvelles de notre petite Suédoise?
Elle est à 11 km. Alors ça fait quelques minutes, ça fait au moins une demi-heure qu'elle est à 11
km
de New York. Pour l'instant, elle a l'air d'être stationnée. C'est tout ce que je peux vous
donc
dire.
Donc elle arrive
accostée. Voilà, c'est imminent.
Bon, on donnera des nouvelles tout à l'heure. Corélie Le Chevalier, à tout de suite, hein, les messages pour vous. Et les auditeurs, 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert, et Camille, justement, aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de politique et de nos dirigeants.
Oui, vous savez que le G7 avait lieu le week-end dernier à Biarritz. Climat et biodiversité annoncés au cœur du programme avec la détermination de notre cher président.
Nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi, ici à Biarritz, et à l'appel de la forêt qui brûle. Et donc, nous allons agir.
Il est convaincant, là, oui. On a envie de le croire. Hein. Nous allons agir, ok, après tout, c'est lui le patron, mais je comprends pas, en fait.
Qu'est-ce que vous comprenez pas, Camille?
On est quoi, là? On est fin août 2019.
Oui, je confirme.
Oui, donc je comprends pas. Hein, parce que est-ce que vous vous souvenez de ça?
Make our planet great again.
L'appel aux chercheurs américains, devenu slogan présidentiel pour la défense de la planète, mais c'était il y a plus de 2 ans déjà, c'était en juin 2017, juste après son élection à Emmanuel Macron. Il avait l'air d'y croire aussi, non? Et je comprends pas parce que avant lui, François Hollande, il avait eu l'air très convaincant également en clôture de la COP21.
Le 12 décembre 2015 restera une grande date pour la planète. C'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. La révolution pour le changement climatique. Merci. Vive les Nations Unies. Vive la planète et vive la France.
Et là, alors, on avait vraiment l'impression que tout était réglé pour l'environnement. Il faut dire qu'il leur avait quand même mis la pression.
Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, sur vos épaules repose l'espoir de toute l'humanité. Jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé.
Alors, hyper solennel, hein, François Hollande, jamais, blabla, mais faudrait quand même se synchroniser parce que 8 ans plus tôt, Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait lancé un appel.
Aujourd'hui, on sait. Ne rien faire serait rien d'autre que criminel au regard de l'avenir de la planète, quel que soit le continent.
Et il avait même organisé le Grenelle de l'environnement en 2007.
Le temps de l'action est venu, nous avons trop attendu, nous ne pouvons plus attendre. Ce que j'ai dit ce soir, nous le ferons.
Ah d'accord, oui. Alors Jacques Chirac, il disait quoi lui?
Nous devons aujourd'hui réagir, c'est vital.
Alors ça, c'était en 2002, 2 mois avant son célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et en 2006, il recommençait.
Il y a l'enjeu écologique. C'est un enjeu immédiat.
Immédiat, mais alors immédiat comment en fait? Parce qu'en 1989, il y a 30 ans aujourd'hui, voilà ce que disait François Mitterrand.
La détérioration de l'atmosphère est aujourd'hui certaine. Ses conséquences peuvent ruiner les possibilités même de la vie sur la planète.
Bon, alors c'est bien qu'ils s'en rendent compte. Après tout, Giscard, il avait rien fait. Ah si, en fait, en 77.
La France va organiser à l'automne prochain les assises européennes de l'environnement. Car c'est un problème qui se pose naturellement à l'échelle de notre continent.
Et il avait même eu le nez fin, Giscard.
Je crois qu'il y a, dans les thèmes de l'écologie, un réservoir d'enthousiasme et d'action pour les jeunes. Et je compte au printemps m'adresser à un grand rassemblement de jeunes sur le thème de l'écologie.
Voilà, donc des jeunes qui doivent avoir une bonne cinquantaine d'années aujourd'hui, pendant que les jeunes actuels défilent régulièrement pour le climat et l'environnement, dont Pompidou, même lui, s'était emparé au début des années 70.
Le problème, c'est de travailler à faire que l'environnement soit compatible, un bon environnement soit compatible avec le progrès. C'est ce que nous cherchons à faire en France, et c'est pourquoi en particulier que j'ai créé le ministère de l'Environnement, mais nous ne réussirons qu'à l'échelle internationale.
Presque 5 décennies remontées, 50 ans de déclarations. Et donc, nous voici fin août 2019.
Nous allons agir.
Non, vraiment, je ne comprends pas.
Oui. Vous allez écrire les discours des prochains présidents si vous continuez, Camille. Et vous, Coralie Chevalier, est-ce que vous comprenez ou pas?
Est-ce que vous parliez tout à l'heure de réponses immédiates? Est-ce que finalement, les politiques, ils voient que les réponses immédiates et le long terme...
Oui, alors ça, c'est sûr que si on arrivait à faire changer la façon dont les hommes politiques valorisent l'immédiateté contre le long terme. Bon, mais on a des raisons de... Il faut aussi être optimiste et se dire que les citoyens ont le pouvoir d'envoyer des signaux aux hommes politiques. Et finalement, les hommes politiques prennent les décisions
Là, c'est un peu désespérant quand même.
Qu'ils ont envie qu'on prenne. C'est-à-dire que je pense que si la société dans son ensemble avait plus envie de bouger, ça bougerait plus rapidement. Donc, on a le devoir, nous, d'envoyer des signaux.
Ouais.
Par exemple, en changeant notre mode de vie, en prenant moins l'avion, etc. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est un peu désespérant, mais je veux pas être trop négatif.
Ouais, mais est-ce que vous sentez en ce moment que la société fait bouger les politiques? Là, qu'il y a vraiment un moment particulier que nous sommes en train de vivre?
Oui, moi, je trouve qu'il y a eu des débats en Suède sur l'utilisation de l'avion. Donc, il y a un terme suédois, le nom m'échappe, mais de honte associée au fait de prendre l'avion pour ses vacances. Et ça a fait bouger les politiques en Suède. Et ça, c'est arrivé jusqu'en France. Il y a quand même eu un débat sur l'interdiction des vols nationaux, l'instauration d'une taxe sur les vols intérieurs qui est bien insuffisante évidemment, mais quand même le comportement des citoyens.
Le mouvement suédois s'appelle le Flixcam.
Voilà, c'est ça, merci.
Très soutenu justement par Greta Thunberg, c'est la raison pour laquelle elle a pris le bateau pour aller à New York. 01 45 24 7000, quelles sont les raisons peut-être de votre inaction? Qu'est-ce qui vous freine au quotidien pour changer vos comportements pour l'environnement, ou au contraire, est-ce que c'est facile pour vous? On en parle avec Coralie Chevalier, vous lui posez toutes vos questions et vous témoignez au Standard de France Inter.
On the street, tank top in the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little boat keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy, see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning.
Become a Peter, mommy say be doctor, granny say be preacher, Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Puffy pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it, himself he turn it down. So me just give him the fire, I make it burn.
Run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness panic compound. Man a ton, fool a ton, clown. But Jaja cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still what a dime, lead me beside it.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame.
Burning, c'était Coffee.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Qu'est-ce qui nous freine à votre avis pour changer un petit peu nos comportements, notre mode de vie, pour agir concrètement pour le climat, pour l'environnement? Question posée à Coralie Chevalier, notre invitée, chercheuse en sciences cognitives. Et vos questions au 01 45 24 7000. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où?
J'appelle de Nantes, et du coup j'aurais voulu une réaction de votre invité. En fait, à Nantes, on a la chance d'avoir un programme d'action recherche qui s'appelle Transition énergétique et sociétale. Et on montre assez bien que les gens, ils sont très limités dans les territoires, dans leur changement par le système qui les entoure. On appelle ça le système socio-technique. Enfin, tout ce qui nous entoure autour de nous, le quartier où on habite, la manière dont les choses sont organisées. Et en fait, du coup, on s'aperçoit qu'à titre individuel, on est quand même à décider de changer, très très limité et conditionné par notre environnement proche et plus lointain.
Et donc, pour interpeller notre invité, vous aviez une question précise à lui poser. Vous souhaitiez qu'elle agisse là-dessus.
Si elle constatait ça aussi dans ses recherches, c'est-à-dire le fait qu'on soit vraiment limité dans nos choix individuels par
ce qui nous entoure,
du système dans son ensemble. Quoi.
Coralie Chevalier, pour répondre à Julien.
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est un frein. C'est pas un frein qui est cognitif, mais c'est un frein tout court. C'est-à-dire qu'une des raisons au non-changement, c'est que parfois on peut pas changer. Pour temporiser un peu cette idée-là, il faut quand même avoir en tête que un quart des gaz à effet de serre sont produits par la nourriture. Et donc là-dessus, on a un vrai pouvoir individuel, sachant que devenir végétarien, c'est faire diminuer de 63% cette part-là. Ce quart-là diminue de 63% quand on devient végétarien. Donc on a quand même un pouvoir, quel que soit l'endroit où on habite, de prendre cette décision-là, par exemple. Un aller-retour Paris-New York, c'est une tonne de carbone, c'est-à-dire que ça représente, sachant que les émissions territoriales d'un Français moyen, c'est 6,9 tonnes, ça représente une part conséquente du budget carbone d'un individu. Donc là aussi, c'est quelque chose que chacun peut faire.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a des freins de dire « mais pourquoi moi je le ferai alors que les autres, ils le font pas ?»
Exactement, et ça, pour le coup, c'est un frein cognitif.
Oui, mais alors, quelle est la solution? C'est de le faire quand même?
Alors, la solution, c'est si on en a...
Se sentir pigeon, comme vous disiez.
Exactement. Donc, la solution, c'est déjà, on constate que peu à peu, il y a de plus en plus de personnes qui disent réduire leur consommation de viande pour des raisons environnementales.
Et chez les jeunes en particulier.
Chez les jeunes beaucoup, en particulier. Hein. Donc, il faut que ce soit de plus en plus connu pour que la norme sociale change et que les personnes qui font ce choix-là se sentent fières et se sentent pas pigeons.
Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important de faire de la vraie pédagogie pour expliquer toute la chaîne finalement. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence d'arrêter de manger de la viande? Il ne suffit pas simplement d'en prendre la décision, mais de comprendre tout ce qui se passe à toutes les échelles. Hein.
Oui, et pourquoi est-ce que ça pollue autant? Et à quel point, on en parle assez peu, j'ai remarqué ça ces derniers jours, pourquoi est-ce que c'est finalement lié aussi aux feux de forêt qu'on observe en Amazonie? Donc pour avoir du bétail, il faut faire de la déforestation parce qu'il faut nourrir les bêtes, il faut cultiver du soja qu'on importe ensuite en Europe. Donc c'est une énorme cause de pollution et peu importe où on habite, on a le pouvoir là-dessus.
Merci Julien pour votre appel de Nantes. Gilles est en ligne également avec nous au 01 45 24 7000. Bonjour, bienvenue dans la Terre au Carré.
Oui, bonjour, merci pour mon appel.
Votre question Gilles.
Donc ma question en fait rejoint exactement ce que vient de dire votre intervenante. Je suis assez frappé de voir que par exemple pour le tabac, on a été capable de mettre des politiques publiques très volontaristes, voire désagréables. Hein. Personne n'aime voir les images qui sont sur les paquets et c'est fait pour ça. Parce qu'à un moment, il faut choquer le public cible pour que l'on soit contraint de voir la réalité en face, réalité qui parfois est plus facile d'ignorer. Et j'ai l'impression qu'on est dans le même cas de figure maintenant avec l'environnement. Votre intervenante parlait de la viande dont la consommation devrait être réduite pour des considérations, certes de santé, mais aussi environnementales. Je suis toujours choqué de voir les files qu'il y a devant les restaurants rapides dont les pratiques peuvent être questionnées, devant certaines consommations de produits hyper transformés. Voilà. On a quelques messages pieux, 5 fruits et légumes par jour, des choses très généralistes. Mais dans la mesure où tout le monde est d'accord sur l'urgence, sur le constat, que c'est partagé par les responsables politiques, pourquoi ne se donne-t-on pas les moyens de sortir le consommateur de son statut de consommateur passif et quelque part peut-être de mettre l'aiguillon qui va bien, comme on a su le faire pour le tabac?
Alors, Coralie Chevalier, est-ce qu'il faut choquer, pour reprendre le mot de Gilles à l'instant, comme culpabiliser, tout à l'heure on en discutait?
Oui, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on aille plus fort, plus loin, plus vite. C'est ce que j'aimerais en tant qu'individu. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les réformes soient acceptées. Une réforme qui n'est pas acceptée, c'est une réforme qui échoue. Et une manière très simple de choquer, c'est de faire passer la taxe carbone de 50 euros la tonne à 100 euros la tonne en 2 ans. Donc on double le prix de la tonne de carbone. Et on a vu que c'est pas possible de faire ça. Mmh. Alors, je voudrais quand même dire que il est possible que ce soit possible. Il y a une note du Conseil d'analyse économique qui est très intéressante et qui dit pour une taxe carbone juste et pas juste une taxe. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça a échoué, c'est que c'était une taxe régressive. Et il y a plein d'économistes qui proposent des mécanismes pour que cette taxe soit redistributive. Mmh. Et ça permettrait de rendre cette réforme plus acceptable. Mmh. Mais on peut pas simplement aller à l'encontre de la volonté des gens. Il faut un consensus citoyen.
Il y a une question de Claire, elle nous demande si ces freins cognitifs que vous évoquez sont les mêmes qui empêchent les chefs d'entreprise ou les politiques à prendre des mesures importantes pour le climat ou l'environnement. Ça fonctionne de la même manière dans le cerveau de nos responsables.
On parlait de la temporalité et du fait qu'on a besoin de résultats à court terme versus à long terme. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est partagé par tout le monde. Ouais. Ensuite, les chefs politiques, ils sont pris dans un dilemme du prisonnier. Ils sont avec tous les responsables politiques autour de la planète. Mmh. Et ils doivent prendre des décisions au même moment que les autres. Parce que celui qui part trop tôt, désavantage son pays au détriment des autres. Donc c'est vraiment un problème de coopération qui est bien connu en théorie des jeux.
Et pour les industriels, il y a aussi la rentabilité.
Exactement.
C'est ça. Parce que là, on parle d'agriculture intensive. Quand vous parlez du soja et de la viande, c'est ça. Donc il y a aussi un...
Voilà. Et donc pour évidemment, il faut créer une structure incitative qui soit en mesure de changer ça. Mais pour ça, il faut des décisions politiques. Et ces décisions politiques, c'est difficile de les prendre tout seul.
Ouais. Sur Twitter, David nous dit il est difficile de faire changer les comportements quand il n'y a pas de gratification immédiate, visible, notamment pour faire comprendre et accepter aux enfants de renoncer à certains plaisirs, à certains aliments. Ben, c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein.
Oui, alors il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans le monde. Par exemple, au Royaume-Uni, ils ont fait un pilote où les personnes qui achetaient un véhicule propre, qui coûte généralement plus cher, et donc ces gens peuvent se sentir des pigeons, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, qui sont des plaques vertes. Donc au moins, on a la satisfaction réputationnelle d'afficher aux yeux de tous que nous, on a fait un effort. Donc il faudrait essayer de multiplier ce genre de signaux pour pouvoir informer les autres du fait qu'on a pris une décision qui nous a coûté.
Et alors comment est-ce qu'on pourra arriver à faire bouger ça aussi, nos comportements, et agir sur ces biais cognitifs? Parce que c'est compliqué, hein. Là on est vraiment dans des rouages neurologiques quasiment. Hein.
Ouais, alors le levier social est très important. Donc il y a pas mal de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour s'engager publiquement face à tous leurs amis à faire telle action. Et donc là, c'est beaucoup plus engageant que si on a décidé pour soi-même qu'on allait moins prendre l'avion ou moins manger de viande. Mmh. Donc ça, c'est une possibilité. Et je pense que c'est le levier le plus puissant. Ouais. Le levier social, c'est le levier le plus puissant.
Mais il faut faire de la pédagogie, il faut l'enseigner dans les écoles le plus tôt possible.
Oui, il faut
apprendre
faire de la
vraiment
pédagogie.
À aller contre finalement nos réflexes.
Exactement, il y a des croyances qui sont plus intuitives que d'autres et qu'on accepte mieux que d'autres. Et ces croyances sont parfois complètement fausses. Par exemple, c'est difficile d'accepter l'idée que le nucléaire n'est pas une énergie qui produit beaucoup de carbone. Donc c'est une énergie qui comporte d'autres types de problèmes, le déchet de traitement, etc.
Ouais.
Évidemment. Mais c'est une idée qui est contre-intuitive. Quand on demande aux Français s'ils pensent que le nucléaire, ça produit du CO2, ils répondent oui, en majorité. Et c'est faux. Donc il faut faire de l'éducation et avoir conscience du fait que certaines croyances sont contre-intuitives. Et aussi que les statistiques, c'est quelque chose qui est très difficile à manipuler pour notre cerveau. Donc il faut utiliser des équivalences qui parlent. Par exemple, je pense à la pollution de l'air. Dire à la population que la pollution aux particules fines qui est causée par le chauffage au bois est équivalente à celle qui est causée par le transport automobile, c'est une statistique frappante, choc, qu'on n'oublie pas.
Donc, il faut quand même frapper les esprits, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Frapper les esprits, oui.
Ouais. Et puis réfléchir collectivement aussi à toutes ces questions pour avancer plus efficacement, hein, c'est ce que vous nous disiez.
C'est ça. Et l'efficacité, il faut être prêt à accepter que c'est pas forcément ce qu'on croit. Il faut être prêt à entendre que ce qui est efficace, c'est pas forcément ce qu'on pensait être efficace.
Merci en tout cas, Coralie Chevalier, d'être venue nous en parler. Je sais que vous travaillez sur un livre qui sortira dans quelques mois et on aura certainement l'occasion d'en discuter dans La Terre au Carré, juste après les infos, vos solutions pour la planète. Et aujourd'hui, nous serons en ligne avec Sébastien de Montpellier qui nous parlera d'Oasis Citadine. C'est une ferme urbaine collaborative accessible.
France Inter. La Terre au carré.
Adèle a 18 ans, elle a décidé d'éteindre avec ses amis les enseignes lumineuses des magasins qui restent allumées. Antoine Lee l'a rencontrée, ce sera le portrait du jour. Et puis dans la dernière partie, notre invité découverte nous présentera Energy Observer, un bateau autonome en énergie du côté de l'Atlantique. Toujours pas d'arrivée de Greta
Thunberg
sur le sol américain. Mais non,
elle stationne, alors je ne sais pas si avec le décalage horaire, ils attendent que le jour se lève à New York. Mais en tout cas, sur la carte, elle est à l'arrêt, à 11 km de New York.
Bon, on est à fond, on vous donne des nouvelles minute par minute.
Taquée,
alors merci en tout cas, et vos solutions pour la planète comme tous les jours. C'est Sébastien qui est en ligne aujourd'hui et vous nous appelez de Montpellier. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Sébastien, vous vouliez nous parler d'Oasis Citadine. C'est une ferme urbaine collaborative. Alors de quoi s'agit-il exactement?
Oui, alors comme vous venez de dire, donc, Oasis Citadine, c'est un concept innovant de ferme urbaine collaborative, donc en permaculture. Et l'idée, c'est comment on peut recréer des lieux, des écosystèmes en milieu urbain qui permettent aux citadins et aux citoyens de venir cultiver leurs propres fruits et légumes et également de devenir acteurs de la transition, comme on en parlait, face aux urgences qu'on peut avoir. Et c'est comment on peut permettre à chacun de retrouver un contact avec la nature tout en venant cultiver, apprendre à jardiner et produire une partie de son alimentation.
Ouais, et vous êtes fermier, vous, à l'origine, Sébastien, ou pas?
Alors non, pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dans le monde de la finance avant.
Oh là, oui, donc vous étiez très loin des fermes.
Rien à voir.
Ouais, non, c'est vraiment rien à voir et ça a été un changement de vie qui était assez important pour moi. Ça a été de comment on pouvait signifier, repartir dans un projet qui était porteur de sens. Et justement, c'est à nos générations, nous on est des jeunes, on est des trentenaires, comment on peut proposer des solutions, des alternatives, montrer qu'il y a des modèles qui sont différents, qui existent et qu'on peut mettre en place. Et donc c'était vraiment comment on pouvait s'investir à temps plein sur un projet pour permettre au plus grand nombre aussi de venir redécouvrir tous les bienfaits que ça peut générer, les bienfaits sur la santé, sur le côté d'avoir une alimentation saine, le contact avec la nature, remettre de la nature en ville. Et c'était comment on pouvait permettre également à chacun d'entre nous de redevenir acteur de cette transition.
Ouais, mais Sébastien, vous n'êtes pas passé comme ça du jour au lendemain de la finance à ces fermes. Il y a bien quelque chose dans votre histoire quand même, non?
Oui, alors il y a eu des liens. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance en tant que petit-fils d'agriculteur d'avoir connaître tous les bienfaits, les joies qu'on pouvait avoir d'une vie à la ferme. Mmh. Donc c'est vrai que c'est une chance. Et après, en partant du constat aussi dans mes études, où j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les micro-fermes, sur les petites fermes qui sont sur de petites surfaces, quel était leur potentiel. Et c'est vrai que c'est toutes ces autres choses-là qui m'ont fait me prendre conscience de la pertinence de l'agriculture et à quel point elle était importante pour changer notre modèle de société dans lequel on vit aujourd'hui. Et ce mémoire-là m'a fait identifier certains freins. Et donc après, j'ai voulu comment autour d'un projet, on peut lever ces freins-là pour engager cette transition et faire en sorte qu'on puisse la rendre accessible au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, les personnes aujourd'hui, il y a près de 80% des Français qui habitent en milieu urbain. Donc il fallait également recréer ce lien entre la ville et la campagne. Et ça passait par remettre de la nature en ville, remettre de l'agriculture. Et c'est ce que fait l'agriculture urbaine. Et au-delà de la... Après, c'est une philosophie de vie aussi. Comment avec la permaculture, on peut recréer des écosystèmes qui remettent l'humain au cœur aussi. C'est ça qui est important dans notre projet, dans la philosophie de cette ferme
et
urbaine.
Et Sébastien, elle ressemble à quoi, pardon, votre ferme urbaine, ce projet Oasis Citadine, ça ressemble à quoi?
Alors ça ressemble, faut s'imaginer, c'est une grande parcelle de vignes où vous pouvez être au cœur d'un potager qui fait aujourd'hui presque 2000 mètres carrés. Et on est entouré, on a toute une parcelle de vignes où on fait notre propre vin. Ensuite, sur le potager, on a toutes nos plantes qui poussent, des tomates en ce moment, des salades.
Mais c'est en plein milieu de la ville?
On est vraiment à la périphérie. Donc c'est-à-dire, on fait 10 mètres, on a la ville, on fait 10 mètres de l'autre côté, on a la campagne.
Donc c'est Montpellier.
Vraiment à la périphérie. Et c'est qu'on est sur les terres du château de Flaugère, il y a Montpellier. Donc ça se situe à Montpellier. Et c'est le château qui nous prête cette parcelle de 8000 mètres carrés.
Ah oui.
Pour qu'on puisse réaliser ce projet avec des membres qui viennent ensuite cultiver, jardiner sur cette oasis qu'on a créé tous ensemble.
Donc quand on est un urbain en manque de légumes, de fruits, d'aromates ou d'œufs, on peut aller vous rejoindre et puis cultiver, récolter, préparer tout ça?
Oui, c'est ça. Alors être en manque, on sait aussi être en manque de légumes de qualité, où là on retrouve aussi vraiment quels sont le goût. Enfin, quand on vient cueillir une tomate qui est toute fraîche dans le jardin, elle n'a pas du tout la même saveur que celle qu'on a été achetée au supermarché. Et donc c'est vrai qu'on leur rend accessible
ces choses-là à des personnes qui habitent en ville. Elles peuvent venir quand elles veulent sur la ferme, donc on rejoint l'association. Et donc après, elles peuvent venir quand elles veulent. C'est une ferme qui est ouverte tous les jours, qui peut se visiter. Hein, pour ceux que ça intéresse et qui sont dans la région, vous êtes les bienvenus. Et donc après, c'est redonner cette chance aussi aux personnes qui habitent en ville d'être au contact de la nature et de c'est un lieu où on vient se ressourcer.
Et se former, Sébastien, parce que c'est ça le principe aussi, c'est d'apprendre réellement à être autonome soi-même. Hein.
Exactement, ça c'est vraiment l'objectif de la permaculture, donc c'est ce qu'on enseigne aussi à tous les membres et à toutes les personnes qui viennent sur la ferme, c'est comment la permaculture, c'est la mise en place de stratégies, de processus pour retrouver à la fois une autonomie et de la résilience. Donc c'est comment on peut permettre à chacun d'apprendre, nous sur la ferme, vous allez apprendre à cultiver, à semer, à faire vos propres plans, vous allez également, mais au-delà de ça, on va aussi apprendre à faire une parcelle de vigne. Donc on apprend le métier de vigneron, on fait notre propre vin, on s'initie aussi à comment on peut faire notre bière, comment on fait des boissons qui sont gazéifiées mais de manière naturelle comme le kéfir. Donc c'est toutes ces choses-là.
Oui, on sent les bons vivants aussi quand même, mine de rien. Hein. C'est bien manger. On sent les bons vivants quand même dans le projet.
Ah oui, c'est montré que c'est vraiment du positif. Mmh. Et nous, dans la permaculture, il y a l'humain qui est au cœur et c'est avant tout vivre une aventure humaine aussi. Donc c'est comment on va faire les choses, mais on les fait à la fois pour nous, et on se rend compte que l'effet de les faire en collectif, ça nous apporte un épanouissement qui va au-delà de simplement le fait de cultiver ou d'être au contact de la nature. Et la manière de faire les choses nous importe énormément dans notre association, et c'est montré que le collectif aussi, il fait sens, et il apporte plein de bénéfices et de bienfaits, le lien social, les rencontres, les échanges, tous les partages qu'on peut créer quand on est une communauté qui partage des valeurs. Et ces choses-là, c'est des bienfaits, montrer qu'ensemble aussi, on est beaucoup plus fort et on a réalisé, nous, des choses magnifiques que je vous invite tous à venir voir.
On va sur le site. Oui, absolument. C'est oasiscitadine.fr. Le site est très bien fait. Il y a une page d'accueil formidable. On voit tout le monde à table en train de ripailler, de manger, de boire. Et donc, on pourra également prendre des renseignements pour se former auprès de vous. Je rappelle que vous êtes à Montpellier. Merci beaucoup, Sébastien. Vos solutions pour la planète. Il y en a beaucoup d'autres avec les auditeurs de La Terre au Carré. Et vous pouvez, bien sûr, nous en faire part. Vous passez par les réseaux sociaux. Anna, notre community manager, reçoit tous vos messages. Et si vous avez également besoin d'un coup de main pour monter un projet ou envie de pousser un coup de gueule, ne vous gênez pas, nous sommes
là pour
en parler. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Toute la semaine, vous nous parlez de ces jeunes qui se bougent pour le climat et ça nous rassure. Et aujourd'hui, vous nous emmenez toute l'équipe en Maine-et-Loire, à Angers. Vous êtes parti à la rencontre d'Adèle.
Oui, Adèle vient d'avoir 18 ans depuis 3 mois. Elle organise régulièrement ce qu'on appelle des light-off. Ces actions consistent à éteindre les enseignes des magasins qui restent allumées toute la nuit. Le but, c'est d'éviter le gaspillage d'énergie. Le soir où je l'ai rencontrée, elle était accompagnée de 6 autres jeunes. Ils avaient apporté une perche munie d'un petit crochet au bout. C'est l'accessoire indispensable pour ce type d'opération qui ne peut commencer qu'à partir d'une heure précise.
Eh oh ! Il est 1h du mat. On a vu une enseigne, donc on va l'éteindre. Parce que l'heure légale est arrivée et maintenant tout le monde normalement devrait les éteindre. Sauf que c'est pas fait, donc c'est à nous de le faire. Donc on a des perches et on va y aller. Vous avez l'enseigne lumineuse qui va être illuminée et juste à côté, sur la façade, vous allez avoir un petit interrupteur qu'on peut très facilement baisser.
Là, c'est quoi, c'est une banque hein.
Alors ouais, ça va être une banque en fait, et le levier est très haut, donc quelqu'un va devoir aller sur les épaules de quelqu'un d'autre pour éteindre. Et donc là, on abaisse, et paf, il n'y a plus de lumière, c'est sombre.
Ah ouais, ça marche hein. Ça s'éteint.
Et c'est bien mieux, comme ça.
Quel est le problème lorsque ces boutiques laissent leur lumière allumée par rapport à l'environnement?
Une ville entière où tous les magasins laissent allumer la nuit, c'est énormément d'énergie qui est consommée. Et ensuite, c'est aussi beaucoup de pollution lumineuse. Donc en tant que citadin, déjà on est coupé de la nature et on voit plus le ciel. Quand on regarde le ciel, il est tout noir puis ça a plein de lumière. Quand on éteint la lumière, on voit les étoiles. Donc nous on dit souvent on va rallumer des étoiles. Donc là par exemple, c'est une enseigne qu'on ne peut pas éteindre parce qu'ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas baisser de levier pour plus qu'on les embête en fait.
Et là vous écrivez sur la vitrine là, avec un pinceau et avec un produit curieux qui écrit en blanc en fait.
Ouais, ça s'appelle du blanc de Médon. Donc en fait ça s'enlève directement après, c'est utilisé pour laver les vitres en plus donc... C'est pas dégradant et ça s'enlève tout de suite. L'idée, c'est juste d'avoir un message qui reste pour que les gens ils voient que y a des panneaux qui sont illuminés et être sensibilisés à ces questions.
Et là, qu'est-ce que vous avez écrit là alors ?
Donc là, on a écrit la lumière, on l'éteint et c'est vraiment écrit hyper gros. Du coup, ça recouvre toute la vitrine et c'est super beau.
Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, la police municipale arrive, elle sort de la voiture.
Du coup, il y a des copains qui ont écrit sur un magasin de fringues encore.
On va aller voir.
Monsieur, s'il vous plaît, on s'occupe, on est sur intervention.
Moi, je fais juste un reportage, je fais mon travail sur ces jeunes, justement, sur l'opération qu'ils font.
Oui, mais pour l'instant, on intervient, vous êtes
dans le reportage. La police ne souhaite pas que j'enregistre ce qui se dit, là. Bon, visiblement, ils lui font la morale, là. Hein.
Oui, je pense que là, ils essaient de lui faire une leçon, mais après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie.
Que t'ont dit les policiers, là?
Ils m'ont dit, du coup, que c'était une vitrine privée. Donc, c'est de la dégradation.
Du coup, tu vas pouvoir continuer ton message ou pas, non?
Alors, ils m'ont dit de ne pas recommencer. Donc, on va continuer, mais pas dans le micro.
Toi, Adèle, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action pour l'environnement?
J'ai toujours été un peu sensibilisée. Ce qui m'a vraiment poussée à passer à l'action, c'était lors de la démission de Nicolas Hulot. En tout cas, je sais que quand j'ai su que Nicolas Hulot allait être désigné ministre d'État à l'écologie, on s'est dit, bah voilà, il y a quelqu'un qui va vraiment porter l'écologie, ça va vraiment être entendu, il va avoir quelque chose de constructif qui va se faire avec tout le monde. Finalement, bah non. Et c'était à nous, en fait, d'aller dans la rue. Et c'était super important de se rendre compte que je pouvais le faire, en fait. Donc là, c'est une agence immobilière, on écrit la lumière, toujours, parce qu'ils ont laissé allumer des panneaux pour vendre des maisons.
Je pense pas qu'on décide d'acheter une maison à 1h du matin. En tout cas, il n'y aura pas d'habitat sur une planète morte, ça déjà c'est une bonne stratégie.
Il y a un homme qui arrive là, il n'a pas l'air très d'accord avec ce que vous faites là. On va voir ce qu'il veut.
Je suis commerçant, je n'aimerais pas du tout qu'on me fasse ça.
Oui, mais c'est pas légal de laisser allumer la nuit. Donc d'un côté,
c'est son problème, elle paie.
Oui, mais c'est à nous de la sensibiliser sur la question.
Cette personne, elle veut aussi faire savoir aux gens qui passent le soir qu'effectivement, elle a des produits à vendre. C'est normal. Et je vois pas pourquoi vous vous y opposez.
Aujourd'hui, on a une situation telle que faut qu'on se bouge. Il y a...
Mais le commerçant, lui aussi, il faut qu'il se bouge pour vendre ses produits. Elle en vit, elle fait vivre 15 personnes à peu près. Si elle vend plus ses produits, hélas, tous ces gens-là vont se retrouver au chômage et vous participerez à leur chômage.
On arrive dans un état d'urgence et en cas d'état d'urgence, c'est comme en temps de guerre, on restreint l'énergie. On est en guerre contre une planète qui se réchauffe. Si on considère qu'il y a un problème climatique à régler en urgence, en temps de guerre, on ne gaspille pas de l'énergie pour allumer une vitrine.
Ah oui, ils ne se laissent pas faire quand même, Antoine.
Ils ont du répondant.
Ouais, alors les photos de cette action, donc Light Off, sont disponibles sur la page Facebook de La Tête au Carré. Alors ces actions font évidemment débat. La Terre au Carré, deuxième fois. Est-ce que ça fait débat? Est-ce que ça marche ou pas?
Ça semble être le cas. Depuis que ces jeunes ont commencé ces opérations, ils ont moins d'enseignes à éteindre. Visiblement, une certaine prise de conscience commence à prendre chez les commerçants d'Angers. Tant mieux, ce sont autant d'étoiles qui sont rallumées.
Ah, c'est beau. Demain, Antoine, dernier portrait de votre série sur ces jeunes qui se bougent.
Ça sera avec Martin qui, avec des copains à lui, ont eu l'idée de bloquer la rue devant l'Elysée.
Voilà, ils sont gonflés aussi. Hein. Allez, rendez-vous sur la page Facebook de La Terre au Carré. Dans un instant, l'invité découverte, ce sera Victorien Hérussard. Camille, des nouvelles?
De Greta Thunberg, toujours pas bloqué à 11 km. Alors visiblement, les vents lui seraient pas favorables. Je suis pas spécialiste de la voile, mais...
On a un spécialiste à côté de nous quand même. Il va nous présenter Energy Observer, le premier navire autonome en énergie.
Un point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici, ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien, il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant. Thank you. Un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. Vivant, vivant de corps et d'esprit.
De corps et d'esprit, c'était la voix de Bertrand Belin.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Notre invité découverte a une mine insolante, c'est Victorien Hérussard. Ben normal, vous passez votre vie sur les bateaux en ce moment, sur votre bateau.
En ce moment, beaucoup.
En particulier. Oui. Energy Observer, vous êtes le fondateur de ce projet, capitaine donc de ce navire en autonomie énergétique. Et vous êtes là en plein tour du monde en fait, vous faites juste une escale pour venir dans la Terre au carré.
Tout à fait, le tour du monde dure 7 ans. Donc là, on vient de faire un petit périple de Saint-Pétersbourg jusqu'au Spitzberg, donc dans le Svalbard. On a fait 3000 milles nautiques en autonomie énergétique totale.
Ça fait combien, 3000 milles nautiques?
Ça fait 5800 kilomètres, je crois, à peu près. Donc voilà, avec un système à mixité énergétique qui marche merveilleusement bien.
Donc vous êtes venu vous reposer sur Terre, c'est ça?
Oui, quelques jours.
Ouais. Alors donc le bateau est toujours en mer en ce moment, il est en Norvège, c'est ça?
Ouais, il a retraversé l'océan glacial arctique là, donc on est redescendu, on est monté quand même jusqu'à 1300 km du pôle Nord. Ouais. Donc on était à 79 degrés de latitude, on a voulu tester en fait le système énergétique dans des eaux glacées, et donc on est redescendu là dans les fjords norvégiens. L'idée c'est d'aller au Royaume-Uni dans quelques semaines.
Ouais, c'est une belle bête hein, ce bateau, il faut aller voir sur le site, parce qu'il a, on dirait un catamaran.
C'est un catamaran en fait, ouais. c'est l'ancien catamaran de Peter Black qui a gagné le trophée Jules Verne, donc record autour du monde en 94. On a décidé de travailler sur une plateforme déjà existante pour faire un peu d'économie circulaire, un reconditionnement, on va dire, un recyclage et d'investir notre argent essentiellement dans le système énergétique.
Ouais. C'est un catamaran avec deux éoliennes qui ressemblent un peu à des grandes cheminées.
Alors c'est un catamaran de 30 mètres de long, de 13 mètres de large, il pèse 30 tonnes, il est assez léger hein, par rapport à sa taille. Et donc on a testé différentes sources de production d'énergie renouvelable. Donc on a testé plusieurs sortes de panneaux photovoltaïques, on a testé plusieurs sources d'énergie éoliennes. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, qu'on a enlevé. Et là on a testé cette année des ailes de propulsion donc éoliennes qu'on appelle les Ocean Wings qui complémentent notre système énergétique et nous permettent d'avoir un système autonome avec une performance assez incroyable.
Et c'est quoi la finalité de tout ça et qu'est-ce que vous testez entre autres à bord en plus de ce que vous venez de dire à part prendre le soleil?
On teste aussi l'énergie hydrolienne, on teste le stockage, les batteries qu'on essaye de minimiser parce que il y a besoin de beaucoup de matières premières comme le lithium, le cobalt pour les batteries qu'on a actuellement. Donc, au niveau environnemental, c'est pas terrible pour l'instant. Ouais. Et donc, il y a des nouvelles technologies de batteries qui devraient arriver avec de meilleures densités énergétiques. Et là, on teste surtout un système hydrogène. Donc, on a la capacité de produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau de mer.
Ouais. Donc, comment ça fonctionne ce système? Comment on peut produire ça justement?
C'est un procédé électrochimique. En fait, c'est une conversion de l'eau, H2O. On sépare l'oxygène de l'hydrogène et on le stocke dans des réservoirs à très haute pression. Et donc, voilà.
Mais ça, c'est formidable parce que quand on est en mer, évidemment, on a tout sous la main. Alors, pour le fabriquer, ça paraît très simple, non?
Ouais, oui, non, mais c'est pas si simple que ça. Et surtout, en fait, il y a des problèmes de rendement. Donc, en fait, quand on est en mer, nous, l'idée, c'est d'équilibrer nos énergies. Donc, on produit ce que l'on consomme. Et lorsqu'on est en surplus, on stocke ce surplus en hydrogène. Et lorsqu'on est en déficit, on convertit cet hydrogène en électricité. En fait, c'est un bateau laboratoire. Et ce système est transposable pour des applications portuaires, maritimes, mais aussi terrestres. Mmh. Ce qu'on fait avec notre bateau, on pourrait le faire à l'échelle d'un quartier, par exemple.
On pourrait.
Oui. Hein. Ouais.
Donc c'est vraiment des grands projets, en fait. C'est vraiment une expérimentation que vous menez pour ensuite sortir de la mer et faire en sorte qu'on puisse utiliser cette autonomie énergétique dans plein de situations.
Oui, exactement. Et moi, à l'origine, je suis officier de marine marchande, donc j'ai navigué sur des gros navires de croisière avec les problématiques de machines thermiques, avec les émissions de CO2, de particules fines, NOx, SOx, etc. Et puis j'étais coureur au large. Donc je naviguais avec le vent essentiellement.
Vous avez fait la route du Rhum, hein, c'est ça ?
Oui, quelques transats Jacques Vabre, Québec-Saint-Malo, etc. Ouais. J'ai fait 10 ans de
quotidien normal. Oui, j'ai fait normal, quelques transats.
J'ai fait une quinzaine d'années de haut niveau et de course au large. Ouais. Et donc un jour, j'ai eu un petit bug énergétique au milieu de l'océan Atlantique, entre les îles du Cap-Vert et le Brésil.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, mon alternateur était défectueux, en fait, diesel. En fait, même les bateaux de course, qui sont des planches de composite, hein, donc le bateau de course qu'utilise Greta Thunberg actuellement pour traverser l'Atlantique, c'est des bateaux où il n'y a rien dedans, c'est extrêmement léger. Et donc, voilà, ces bateaux, ils utilisent aussi beaucoup d'énergie pour leur centrale de navigation, pilote automatique, etc. Tous les bateaux utilisent du diesel et avant du charbon, pas le nôtre.
Et donc vous êtes retrouvé en rade en plein milieu de l'Atlantique. Vous avez dit, faut que je développe une idée derrière pour que ça n'arrive plus.
Exactement, j'avais beaucoup d'énergie autour de moi, du vent, du soleil. J'étais incapable de les exploiter intelligemment. Donc j'ai voulu faire un smart grid, un laboratoire flottant à bateau intelligent.
Ouais, c'est vraiment le premier en autonomie énergétique totale.
Alors, il y a eu un super projet là, donc des Suisses, un bateau qui s'appelait Planète Solar. Ils avaient une propulsion électrique et des panneaux solaires. Nous, on est allé chercher vraiment la mixité, et il s'avère que c'est intéressant parce que en l'occurrence, quand on est monté vers le Spitzberg, vous avez des performances d'ensoleillement, enfin il y a plus de nuages, le vent était de face, donc un coup on utilisait l'énergie avec le soleil, d'autres fois avec l'éolienne, et qu'on avait plus de vent, plus de soleil, on avait notre hydrogène, voilà.
Et au niveau des émissions de gaz à effet de serre, là, vous êtes nickel aussi ou pas ?
Ah ben oui, sur le bateau, sur le bateau, on est plus que nickel, donc c'est zéro goutte de fossile, c'est l'autonomie énergétique. Par contre, le petit souci, c'est que on va au rythme des énergies renouvelables, c'est-à-dire que le bateau est efficient énergétiquement, mais on va pas vite.
Vous n'allez pas vite, hein, d'accord.
Mais j'ai Nicolas Hulot qui est venu à bord récemment, qui a fait une traversée entre la Finlande et l'Estonie. Donc là, on était en surplus d'énergie, le bateau il fonctionne extrêmement bien. Il m'a dit, écoute, cette faible vitesse faisant une force, et c'est vrai que les énergies renouvelables, ça nous montre que les énergies fossiles qu'on a emmagasinées pendant des millions d'années, et au final, les énergies fossiles, ça reste du soleil. On l'utilise un petit peu.
Mais ce tour du monde, il sert à quoi alors ? À part le fait de prouver qu'on peut effectivement avoir un bateau en autonomie énergétique, mais les escales.
L'idée au début, c'était une expérience énergétique, c'était de faire accélérer la transition énergétique, notamment dans le monde du transport maritime, mais aussi donc plaisance et aussi professionnel, transport de marchandises. Et en parallèle, on a voulu raconter une histoire, donc on a créé l'Odyssée pour le futur, et donc on a une équipe d'ingénieurs embarqués, mais on a aussi une équipe de production, et donc on a une équipe pour aller à la rencontre de tous les acteurs du développement durable à travers le monde, toutes les solutions.
Alors vous avez l'air exemplaire, j'ai une question, parce que sur votre site internet, il y a un petit onglet « Nos partenaires », donc je suis allée voir vos partenaires, je vois Toyota, Engie, Air Liquide, Hewlett-Packard, Nikon, est-ce que tous ces gros groupes qui ont l'air à l'opposé de l'exemplarité en termes de climat viennent pas un peu ternir votre image ?
On les a.
Ça décrédibilise un peu, moi, je trouve.
Vous avez toujours besoin d'argent pour mener à bien ce genre d'expédition. Mais on a quand même sélectionné les partenaires idéaux pour ce genre d'aventure. En l'occurrence, Toyota, ils sont quand même extrêmement forts sur les solutions de voitures hybrides, sur le développement de la voiture hydrogène. Engie, quand même, a aussi a décidé de passer un cap et de se tourner vers les smart grids, les énergies renouvelables.
Mais c'est vrai que pour l'image, le charbon. C'est vrai que quand on va sur le site et on voit tous ces partenaires, on se dit zut alors non. C'est un peu la réaction que tout le monde peut avoir.
Oui, bien sûr. Non, mais justement, il y a un moment où vous vous dites qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ça tout seul ou vous faites ça avec les entreprises ? Ce qui est important, c'est que même si les entreprises
parfois, comment, sont un peu sales au niveau industriel. L'idée, c'est qu'ils aient des objectifs. Oui, bah... Et qu'ils aient une conversion, quoi. Et je pense que c'est le cas pour tous nos partenaires.
Ouais. Donc c'est Energy Observer, c'est le nom de ce projet. Energy-observer.org pour aller voir quand même ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des projets qui sont ultra intéressants à mettre au point, si évidemment les technologies se perfectionnent. Hein. Ouais. Et aussi à terre, on le disait tout à l'heure. Donc on peut découvrir ce tour du monde sur la page de l'émission. Et puis vous avez même des escales à Saint-Malo qui sont prévues.
Oui, ben on rentre, c'est notre port d'attache, Saint-Malo. Ouais. Donc on rentre mi-octobre pour optimiser parce qu'on a plus de 20 000 milles nautiques à faire l'année prochaine.
J'ai une dernière question que je pose toujours à l'invité à votre place chaque jour. C'est quoi votre geste pas écolo des dernières 24 heures ?
Les dernières 24 heures, je suis venu en train à Paris, donc ça va.
Ça va.
Ouais. Utiliser une trottinette, ça va aussi pour venir jusque chez vous. Je vois pas trop.
Oh, personne n'est parfait, vous pouvez pas nous la faire.
Après, je prends beaucoup l'avion. Pour rejoindre le bateau, c'est le problème.
Mais nous ne sommes pas là pour vous juger, Victorien Russard. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Et bonne suite donc pour du monde. Merci Camille.
Mettez de la crème quand même. Hein.
Oui, un petit peu.
Ouais. À demain.